Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
11h, passé 2 minutes, on est un petit peu en retard, on file sur les marchés tout de suite pour prendre le pouls des échanges avec Sarah Thirion qui nous attend chez TPI Cap. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Comment voyez-vous les choses ?
Pour l'instant, avec calme, sans précipitation. On n'a pas vraiment de... Enfin, on essaie évidemment d'être légèrement dans le vert. Enfin, évidemment, non. On est légèrement dans le vert ce matin, un peu dans la prolongation de ce qu'on a vu hier soir à Wall Street et en attendant donc l'indice, enfin la hausse des prix à la consommation aux États-Unis tout à l'heure à 14h30. Donc tout le monde, enfin le consensus de tabler hein, sur une hausse de 8% sur un an au mois d'août, ce qui marquerait évidemment une décélération après les 8,5 de juillet et le plus haut de juin qui était de 9,1. Ce qui soulagerait tout le monde, mais ce qui, je le rappelle, en fait, inclut la baisse du pétrole. Donc, en fait, en version core, c'est-à-dire hors alimentation énergie, le consensus tape toujours sur une accélération de l'inflation. On passerait de 5,9 au mois de juillet à 6,1 au mois d'août, ce qui, bien sûr, accompagnerait finalement les volontés de la Fed. Après, certains analystes ou investisseurs d'espérer que finalement la statistique de cet après-midi soit plutôt un soulagement et que l'indice des prêts à la production qui sera publié avant les prochaines minutes avant la prochaine réunion de la Fed ne permette effectivement peut-être à la Fed d'envisager peut-être 50 bips au lieu de 75 bips. Bon, franchement, voilà, on est sur ce trait et donc on verra comment se passent les choses tout à l'heure. Et on a toujours des marchés qui essaient de rester positifs. En fait, on est vraiment dans cette attitude de faux. Alors, on voit bien l'accumulation des risques. Et on est quand même dans cette attitude de FOMO parce que finalement, il suffirait que cette guerre en Ukraine se résolve pour qu'on ait un enchaînement de choses positives puisque la fin de ce conflit permettrait une baisse de l'inflation. Ça permettrait du coup aux banques centrales de se relâcher un petit peu sur le front monétaire. Ça soulagerait le momentum macroéconomique. Ça soulagerait les perspectives bénéficiaires des entreprises. Et donc, tous ces critères-là sont complètement interconnectés. Et donc, on a des marchés qui essaient de résister quand même en disant, bon, voilà, il peut y avoir, s'il y a une solution en Ukraine, on peut soulager un peu l'ensemble de la chaîne de valeur macroéconomique. Mais bon, voilà, on a toujours, pour l'instant, ouais, malheureusement, pas de solution. Et bon, donc, un environnement qui reste hyper compliqué.
Et essentiellement macroéconomique, du coup, pas de dossier véritablement
micro. Il n'y a rien ce matin qui se détache. Voilà, un jour ne ressemble pas à l'autre, donc ce qui monte un jour baisse le lendemain, donc on voit bien qu'il y a une absence totale pour l'instant de conviction ces derniers jours dans les marchés. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est effectivement le secteur retail qui baisse le plus. Alors comme vous le savez, on a eu un enchaînement effectivement de mauvaises nouvelles sur ce secteur depuis des mois maintenant. Évidemment, c'est le reflet à la fois d'une surconsommation sur certains produits ou biens de consommation pendant la période Covid ou en sortant de Covid, et puis évidemment l'effet de cette baisse du pouvoir d'achat. Mais on a à nouveau des profit warnings qui se manifestent. On a eu Asos en début de semaine qui a communiqué sur la partie basse de ses guidance annuelles. Et ce matin, Ocado, qui a finalement dit au marché que cette année, il faudrait se contenter d'une légère baisse du chiffre d'affaires et d'un break-even au niveau de l'EBITDA, alors que précédemment, le groupe prévoyait une croissance à un chiffre du chiffre d'affaires et effectivement une marge EBITDA à un chiffre également. D'accord. Donc on voit bien que le scénario reste très difficile, le sell-out ne se fait pas.
Merci beaucoup Sarah. Sarah Thirion, TPI Cap qui nous accompagnait ce matin. Le marché est en hausse de 0,5%, 6365 points. Et c'est l'heure à présent de retrouver Stéphanie Collo pour l'Info Éco.
BFM Business, l'Info Éco.
Et à la une, un nouveau Conseil européen de l'énergie est convoqué d'ici la fin du mois. Il doit valider les mesures retenues par les ministres européens vendredi dernier. Parmi elles, le plafonnement provisoire du prix du gaz et la création d'une contribution de solidarité pour les secteurs du pétrole, du charbon et du gaz. Ce matin, le chancelier Olaf Scholz dit vouloir une réforme du marché de l'électricité dès cet hiver en Allemagne. En France, le gouvernement va présenter les derniers arbitrages passage du budget 2023 aux parlementaires aujourd'hui. Dans un contexte de croissance faible, d'inflation forte et de dépenses en forte hausse avec le bouclier tarifaire, le ministère dévoilera aussi à 20h ses prévisions de croissance, de déficit et de dette pour l'année prochaine. Outre les parlementaires, les banques sont aussi attendues à Bercy cet après-midi. Pour Bruno Le Maire, les efforts faits en faveur du pouvoir d'achat ne suffisent pas. Le secteur doit aller plus loin pour lutter contre l'inflation. Deux pistes sont évoquées, geler à nouveau les tarifs ou durcir encore un peu plus les plafonds liés aux incidents de paiement. On en vient à cette nomination importante au sein de l'État après le directeur général d'EDF. Le gouvernement va nommer dans les prochains jours le patron de l'Agence des participations de l'État. Selon nos informations, Emmanuel Macron a choisi l'un de ses plus proches conseillers, Alexis Zage-Denweber, un profil particulièrement au fait des questions d'énergie. En Allemagne, l'inflation continue d'accélérer au mois d'août. La hausse des prix progresse de 7,9% sur un an, toujours tirée par les prix de l'énergie et de l'alimentation. C'est conforme aux prévisions. Autre indicateur au Royaume-Uni, cette fois le chômage repart à la baisse à 3,6% au deuxième trimestre. C'est son plus bas niveau depuis 50 ans. En revanche, les salaires réels, c'est-à-dire ajustés après l'inflation, continuent de reculer de 2,8% sur la période. Et puis, bonne nouvelle pour les actionnaires d'UBS. La banque suisse compte relever son dividende de 10% en 2022. Le groupe précise que ses rachats d'actions dépasseront la barre des 5 milliards de dollars cette année. Cédric.
Merci beaucoup Stéphanie. Stéphanie Collot que l'on retrouve chaque heure sur l'antenne pour suivre toute l'info éco. Nous tout de suite, on retrouve Regard Croisé.
BFM Business, BFM Patrimoine, Regard Croisé.
Les regards de Laurent Denys et de Thibault Prébet ce matin. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Laurent pour Oddo BHF Asset Management, Thibault Prébet pour Financière Arbevel. Comment voyez-vous les marchés ? Bon, c'est vrai que les journées se suivent et ne se ressemblent pas forcément en termes de news, hein, comme nous le disait Sarah. Aujourd'hui, pas grand-chose sur le côté micro, mais par contre, la macro reste très prégnante avec ces questions de prix toujours, la confirmation de l'Allemagne ce matin, les États-Unis qu'on attend cet après-midi.
On reste relativement prudent dans ce contexte où la configuration macroéconomique se détériore assez sérieusement, hein, et pas simplement en Europe, mais aussi aux États-Unis et en Chine. Donc de ce côté-là, plus de nuages, j'ai envie de dire. En revanche, une certaine résilience côté microéconomie, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. À voir quelle sera l'ampleur de la révision des bénéfices, mais c'est quand même en partie anticipé par les marchés. Et puis le dernier paramètre, en fait, quand on regarde dans l'allocation d'actifs, ce sont les flux. Et là, pour le moment, alors on peut dire contrariant, mais les investisseurs sont très très prudents, voire plus que couverts. Donc, on n'a pas de momentum positif de ce côté-là. Donc, pour résumer, une certaine prudence.
Thibault, on se cherche un peu autour de ces questions de prix.
Alors, il y a deux sujets. Le premier sujet, c'est que ce qui a emporté un peu le marché ces derniers jours, c'est pas les prix. C'est ce qui se passe en Ukraine, avec cette idée qu'on voyait un enlisement qui paraissait maintenant, quelque part, ne plus offrir de capacité de rupture et donc, quelque part, nous pourrir la vie pour les X prochaines années. Et là, on a eu un changement de ligne qui laisse supposer peut-être que le scénario du pire sur ce conflit, c'est-à-dire un enlisement de très longue durée, est peut-être pas central. Alors évidemment, je suis assez mal à l'aise pour en parler parce que mes compétences sur la prévision d'un conflit armé sont nulles, comme celle de Financière Arbevel, donc c'est évidemment peu agréable. Mais ça reste quand même le premier point sur l'évolution de ces derniers jours. Le deuxième point, c'est effectivement ces chiffres d'inflation aux US. Pourquoi ils sont importants ? Ils sont déjà importants parce que effectivement, il y a un décalage de cycle entre les US et l'Europe, puisque l'Europe a une inflation énergétique qui se résorbe pas parce qu'elle n'obéit pas aux règles de l'offre et de la demande, compte tenu de la position russe qui n'est pas, fluide et dans une logique de marché. Aux États-Unis, en revanche, il est plus probable qu'on a déjà passé le pic. Et donc, la question, c'est est-ce que c'est le cas ou pas ? Et si oui, dans quelle ampleur ? C'est doublement important parce que, avec toute la logique qu'on peut disserter sur les marchés européens en termes de micro et de macro, on sait qu'à la fin, c'est un peu les US qui font le marché quand même. Donc, essayer de savoir ce qui va se passer sur ce chiffre de cet après-midi, c'est très important. Il faut rappeler aux auditeurs que sur les derniers mois, c'est ce chiffre des prix à la consommation et non pas à la production, qui est le chiffre le plus important du mois. Et donc là, voilà, il arrive cet après-midi, ça va être extrêmement important et les analystes sont tous très, très, très au fait de ce sujet et regardent ça avec beaucoup d'attente, comme vous l'avez dit même avec votre intervenant précédente.
Gros sujet. Je voudrais juste faire deux remarques. La première par rapport à votre propos sur le fait que la crise ukrainienne est effectivement le gain de l'armée ukrainienne contre l'armée russe favorise en fait les marchés ou favorise la fin d'un conflit. C'est pas du tout notre avis. Notre avis, en fait, c'est de se dire on aura une résolution du conflit que par un cessez-le-feu sur un compromis. Là, il faut quand même s'attendre à ce que M. Poutine réagisse. Enfin, on va plutôt dans un conflit qui s'éternise. Et j'ai du mal à voir pourquoi le...
Parallèlement, il faut quand même aussi admettre, et on l'a vu hier en fin de journée notamment, qu'il y a, y compris à Moscou, on l'a vu à la télé, on l'a vu sur la télé russe, hein, on l'a vu par certaines prises de position de conseillers municipaux qui sont aussi députés. Voilà, enfin, la belle unité entre guillemets de façade du peuple russe est en train de se craqueler, et on dit, enfin, on a entendu tout un discours sur les sanctions ne servent à rien, etc. On a là aussi quelques données budgétaires russes qui prouvent que on est vraiment en train de taper dans les réserves, quand même, non ?
Non, je pense que c'est ne pas comprendre le pourquoi, l'initiation de ce conflit. Et donc, je pense que c'est faire une erreur d'analyse. Mais on verra effectivement quelle sera la résultante. Effectivement, ça commence à craquer un petit peu. Pourquoi ? Parce que la population souffre. Mais j'ai envie de dire que ce n'est pas la première fois. Et je pense qu'elle est habituée. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu'on soit dans une configuration où la Russie, compte tenu des réserves de change qu'elle a accumulées avec la hausse du prix du gaz, soit dans une situation vraiment complexe. Et effectivement, au niveau de son armée, il y a des défaites, ça commence à percer au travers des réseaux sociaux. Donc là, il y a une problématique de communication. Mais ne pas s'attendre, en fait, à des mesures de rétorsion aussi bien au niveau du gaz, la rupture complète du gaz, parce que c'est ce qui va se passer, enfin, soyons sérieux, et sur une contre-offensive de l'armée, Deuxième point, sur l'inflation. Je vous rejoins tout à fait sur le pic et sur le fait que les marchés américains sont les marchés qui drive, comme on dit, hein, l'ensemble des marchés. Mais c'est de second ordre. Le chiffre d'inflation cet après-midi, alors peut-être qu'il va être un peu plus bas, certainement, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce que la Fed a dit. Donc 75 points de base, et croire en fait, comme un intervenant l'a dit, qu'on va avoir 50 BP parce que l'inflation sera à 8%, parce que l'inflation cœur va baisser, c'est ne pas comprendre l'état d'esprit de la Fed qui veut lutter contre les anticipations d'inflation. Et donc, ce n'est pas sur des effets volatiles qui vont être constatés là, avec une décélération qui est évidente, avec la baisse des prix du carburant, que la Fed va changer d'état d'esprit. Donc, on va voir quelle est la réaction du marché, mais je trouve qu'il y a une embellie là, du marché sur ces deux paramètres qui me paraît un peu prématuré.
Il ne faut pas oublier quand même que le marché est aujourd'hui drivé beaucoup par des hedge funds, parce que les investisseurs de long terme n'ont pas tellement bougé, et que moi je suis assez d'accord avec ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a deux choses, il y a ce qui est logique et intelligent, et il y a la manière dont ça fonctionne. On voit bien qu'il y a des boîtes qui parfois ont fait des résultats de folie et qui n'ont pas monté. Aujourd'hui, le marché ne fonctionne pas comme il fonctionnait il y a 3 ou 4 années. Il fonctionne sur d'autres paramètres. Les investisseurs, tous les hedges disent il faut voir le moment où on a une convergence entre l'inflation et les taux courts de la Fed. Les taux courts de la Fed montent, l'inflation baisse, donc il y a un moment où ça va pivoter. On a le droit de trouver ça complètement débile. Et il n'y a rien d'absurde là-dedans. Ça reste quand même le truc qui fait bouger les hedges, de la même manière que la guerre en Ukraine. Et après, en fait, malheureusement, ce qui est compliqué dans notre métier, c'est que avoir le bon raisonnement sur le long terme, c'est ce qui marche. Mais aujourd'hui, sur des mouvements assez court terme, on est assez un marché qui réagit assez à ce genre d'éléments qui sont parfaitement discutables, mais qui, dans des marchés très spéculatifs, reste quand même un peu ce qui fait varier au quotidien, qu'on l'aime ou pas, quoi.
Une des questions, parce que tout le monde a bien en tête le mantra de la Fed asséné à Jackson Hole, qui est effectivement cette volonté d'aller au bout. Mais elle tourne aussi autour de la question du taux neutre, de la politique restrictive. Si ils remettent 75 points de base, je ne suis pas complètement au point, mais il me semble qu'on dépasse, ça y est, le taux neutre. Et que
le taux neutre, il est estimé. Alors, estimer un taux neutre,
oui,
déjà,
c'est estimé, on est d'accord.
C'est extrêmement compliqué. Admettons qu'il soit vers 3-3,5%, ce que dit la Fed, peut-être 3,5% aujourd'hui. En fait, effectivement, dépasser ce taux, puisque le taux terminal est plutôt estimé à 4%, si on anticipe la séquence à venir sur les taux, c'est plutôt à 4%. Donc une politique restrictive. Mais c'est dans le but de casser cette inflation de second tour. Et en fait, au détriment de la croissance. Je ne vois pas pourquoi la Fed, hors effectivement résolution du conflit, hors événement exogène marqué, changerait d'avis. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, effectivement, le prix des matières premières, et notamment le prix du pétrole hors gaz, a vraiment baissé. Mais si vous regardez la tendance récente en fait, du prix des produits alimentaires, ça avait fortement baissé, mais là, ça remonte de manière assez dramatique, j'ai envie de dire, pour certains pays. Donc, attention quand même à même cette partie exogène qui, pour l'instant, même si on a moins de congestion, moins de problématiques sur la disruption des chaînes d'approvisionnement, quand même une double problématique endogène, exogène. Les salaires, en fait, aux États-Unis continuent de monter. Le marché du travail reste extrêmement fort, 3,7% de chômage, un rapport de 1 à 3 ou 1 à 2 entre les postes vacants et les postes demandés. Donc on voit qu'on est dans une configuration quand même très très compliquée pour la Fed.
Quel repère on peut donner? Parce que effectivement on a quelques-uns de vos petits camarades qui nous écoutent aussi. On est ravis de les accueillir et de leur proposer aussi vos visions avec un assez haut niveau. Mais on a aussi des épargnants un petit peu plus terre-à-terre qui ont besoin de repos, de repères, etc. Et c'est vrai qu'on leur a beaucoup parlé de ce taux neutre comme une espèce de juge de paix. Voilà, comment est-ce qu'on peut se positionner aujourd'hui avec ces banques, et c'est un peu le cas aussi de la BCE, on l'a vu la semaine dernière, qui sont ultra volontaires d'aller loin?
Alors, je pense qu'il faut beaucoup modérer, c'est-à-dire qu'on sort d'une période atypique où on a vu des taux négatifs, ce qui était un truc qu'on, moi, j'aurais jamais pensé voir de mon vivant. Avoir des taux américains qui monteraient jusqu'à 4 potentiellement, c'est pas ultra volontariste et agressif, c'est quasiment les points bas de tous les derniers cycles qu'on ait connus, à l'exception du précédent. Et sur la Banque Centrale Européenne, on est à des taux qu'on n'a jamais connus de l'histoire européenne. Et même si on les a remontés, je veux dire, les cycles précédents, c'était des hausses jusqu'à 4. Donc, il faut quand même raison garder. On n'est pas dans l'ultra volontaire, on n'est pas dans des choses qui méritent. On est juste dans une économie qui était extrêmement fragile, qui a donné des signes de résilience et de pouvoir supporter des hausses de taux plus forte qu'au cours des 4-5 dernières années où on avait l'impression qu'on ne pouvait rien faire. Des chiffres de mix inflation-croissance qui ne sont simplement pas compatibles avec zéro de taux en Europe. Hein, je veux dire, ça n'a pas de sens. C'est des taux d'urgence extrême. Aujourd'hui, ça ne se justifie pas. Donc voilà, on a une normalisation. Les périodes de hausse de taux n'ont pas toujours été des périodes problématiques pour les marchés financiers. La question aujourd'hui, qui est la seule vraie question en réalité pour les marchés financiers, c'est on n'aura pas de l'hyperinflation en même temps qu'une forte récession. Soit on va avoir cette lutte qui va faire baisser l'économie très vite, comme on le voit aux États-Unis, avec en plus un impact sur l'immobilier, qui est la composante fragile qui peut le faire. Soit on va être trop timoré, arrêter trop tôt, et on risque d'avoir des résurgences d'inflation. La question, c'est lequel des risques est le plus probable, parce que les comportements sont très différents entre une économie trop vigoureuse qui génère de l'inflation et qui tue les marges de beaucoup de sociétés, et une économie plus récessive qui tue les cycliques qui n'ont plus d'activité. Aujourd'hui, la question, elle est là. Ce qu'on sait, c'est que voilà, nous, chez Financière Abbeville, moyen terme, long terme, on n'est pas très inquiet. Sur le court terme, on peut considérer que la microéconomie, qui fonctionne très bien versus un marché qui a beaucoup baissé, offre un potentiel de révision à la baisse des résultats qui ne soient pas nécessairement problématiques. Néanmoins, on est encore sur une visibilité très faible. Ce qu'on pense, c'est qu'on manque de visibilité sur la partie action, donc on reste quand même toujours relativement prudent. On est moins prudent sur la partie crédit, où on retrouve des marchés obligataires qui permettent d'avoir des obligations à 6, 7 de taux, ce qui a toujours été des belles opportunités. Et dans un marché où on ne voit pas des risques de faillite majeurs, on pense que là, il y a une création de valeur immédiate qui est un peu plus évidente. Donc voilà, plutôt de la prudence. Et si on doit aujourd'hui aller faire des courses, on trouve que le marché obligataire, une fois n'est pas coutume, offre des zones d'intérêt qu'on ne voyait plus depuis maintenant quelques années.
Juste un petit mot, je serais curieux d'avoir votre vision aussi sur la fin, enfin sur les semaines et les mois qui viennent en termes de stratégie. Juste un mot, parce que la semaine dernière, Thibault nous a gratifié d'une chouette analyse sur la Chine à travers la démographie, etc. Et effectivement, toute la crise immobilière qui s'implémente là-dedans. Comment est-ce que vous voyez-vous la Chine dans cette période très particulière, avec là aussi des mesures qui sont mises en route et qui semble pas vraiment convaincre, et puis un moment politique aussi? Alors nous, on dit toujours, ah bah regardez, il y a les élections mi-terme, il y a nos élections en Italie, et on s'en fait tout un foin. Là, on a quand même un grand moment politique en Chine. Comment vous le regardez, vous, Chiodo?
Première remarque, je pense qu'on arrive à la fin de cette problématique immobilière. Enfin, les promoteurs immobiliers qui devaient faire faillite ont fait faillite. Ceux qui devaient être sauvés ont été sauvés. Donc, je dis pas que c'est fini, mais on n'est plus dans un risque systémique aujourd'hui en Chine. Première remarque. Deuxième remarque. En fait, les mesures effectivement n'étaient pas à hauteur de la décélération qui s'est produite. Pourquoi ? Effet démographique, effectivement, non prise en compte suffisante de l'impact de l'immobilier. Aujourd'hui, en fait, on a quand même le multiplicateur du crédit, donc en fait des banques qui commencent à reprêter. Et la hausse des crédits est de 10% sur une année. Là, en août, on a vu un doublement par rapport à juillet. On voit que les mesures s'accélèrent. Les dépenses en infrastructure aussi commencent à monter. Ça veut dire qu'en fait, le gouvernement Xi commence à prendre la mesure la problématique. Et puis, dernier point, je ne sais pas si vous avez vu ce matin, en fait, les banques en fait, doivent donner leur exposition à Fosun. Pourquoi ? En fait, parce qu'il y a une volonté du gouvernement de limiter peut-être les sorties du capital. C'était peut-être un tuyau assez facile d'investissement. Vous en citerez un. Hein. Et ça parlera à nos amis lorrains. Hein. Fosun a acheté une société qui s'appelle Saint-Hubert, qui fait de la margarine. 5 fois son chiffre d'affaires, 600 millions, pour une société qui est quand même très, très petite. Donc, c'était quand même vraiment un petit peu exagéré. On voit que la réglementation a eu des impacts négatifs, mais on est au bout. Là, on a une problématique de limiter les sorties de capitaux, puisqu'on anticipe une baisse de la devise. Mais la Chine est très peu chère. Et ça reste pour nous un actif de diversification. Donc, on
reste pas de doute politique ?
Pas de doute politique, je pense que Xi va être élu. Quelle sera après l'ampleur des mesures de relance, c'est vraiment ça qu'il va falloir surveiller dans un contexte en fait, de décélération globale, mais avec pas d'inflation. On a une inflation des prix à la production ou des prix à l'inflation qui permet à la Banque centrale d'être extrêmement accommodante, à contrario des banques centrales des pays développés. Et c'est ça qui permet aujourd'hui en fait, d'être assez positif sur la capacité de relance, stimulus fiscal et stimulus monétaire en Chine. La seule région en fait, équivalente, c'est le Japon. Donc en fait, la Chine et le Japon sont deux zones qu'on privilégie aujourd'hui sur ces paramètres.
Quelque chose à ajouter ou pas ? On ne veut pas refaire le...
Non, effectivement, il y a un manque de visibilité fort en Chine, et c'est pas cher, ça vient de se faire un peu éclater dans le remous estival. Donc il y a des opportunités. Sur le Japon, c'est vrai que nous, dans nos fonds d'allocation d'actifs, le mélange d'une grande compétitivité liée à une devise très basse, une bonne résilience et le fait d'échapper quand même pas mal au sujet de hausse de taux, hein, puisque si vous regardez les hausses de taux japonaises sur l'année, c'est plus du domaine de l'humour que du domaine de la vraie variation. Donc c'est vrai que le Japon aujourd'hui est une zone qui a un intérêt qui est assez évident. Après, c'est vrai que c'est pas forcément un truc qui fait rêver dans les portefeuilles de long terme, mais de manière un peu plus tactique aujourd'hui, il y a quand même un intérêt sur la zone qui paraît assez compréhensible. Hein. Donc c'est vrai que c'est un peu tout le problème des Européens aujourd'hui, c'est de comprendre que notre marché s'est un peu fait éclater, mais qu'il y a quand même des zones à l'étranger qui présentent des turbulences un peu plus faibles, même si c'est peut-être plus le cas du Japon que de la Chine, mais avec des niveaux de valorisation effectivement qui n'ont rien à voir.
Un petit mot justement pour terminer sur cette fin, enfin pas fin d'année boursière, je ne demande pas le niveau du CAC au 31 décembre, mais voilà, on est en période de rentrée, on est le moment un peu où on se dit tiens, comment je vais terminer mon année boursière, vous voyez les choses comment ?
Je vous rejoins sur la faible visibilité. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Bon, on revient à la valorisation, hein, à la base, aux fondamentaux. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, on regarde les anticipations de hausse de bénéfices. Et on a fait un exercice très dur. Hein. On est à peu près à 20% sur les 6 premiers mois. On a mis 10% sur la fin de l'année. Bah, c'est simple, pas besoin d'être très fort en maths pour voir qu'on a mis 0 sur la dernière période. Vous mettez un multiple en fait, de bénéfices à peu près à 12-13, on pense que ça va se stabiliser. Ça vous donne quoi ? Ça vous donne entre 5 et 10% au-dessus des niveaux actuels. Donc aujourd'hui, alors ça c'est le scénario central, et il y a les scénarios alternatifs qui sont moins bons, avec une récession qui s'étend, etc. Mais le scénario central ne vous permet pas de vendre les actions aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il faut les acheter, et je reviens sur mon premier propos qui est d'être prudent. On est prudent parce que la révision des bénéfices n'est peut-être pas complètement anticipée, mais en tout cas, on ne vend pas, ça c'est certain. La zone euro ne paraît pas la zone à privilégier. J'ai parlé des marchés émergents. Les États-Unis sont chers, mais vont rester chers, avec une révision des bénéfices, à mon avis, qui va être moindre. Et là, je vous rejoins sur une opportunité majeure. Quand je dis majeur, c'est sur les obligations au rendement. Vous avez raison. Aujourd'hui, vous investissez. C'est, en fait, vous avez la probabilité sur un an, vous avez une probabilité de 85% d'avoir un résultat positif de combien ? Historiquement, 8%. Donc, ce n'est pas simplement le rendement, mais aussi un gain en capital qui peut être envisagé. Et si jamais les spreads s'écartent, la récession empire, vous avez un coussin qui est lié au portage qui vous permet effectivement de limiter la casse et même de ne pas perdre l'argent avec une hausse de 250 points de base, c'est-à-dire 2,5% en plus. 7,5% en gros de rendement aujourd'hui, c'est très attractif. Et effectivement, ça me paraît une opportunité à ne pas rater.
Merci à tous les deux. Donc Laurent Denis, Odo BHF AM et Thibaut Prébé pour financer Arbevel. Et puis pour que Thibaut n'ait pas à faire de réclame, on vous renverra notamment sur un des fonds que vous lancez ces temps-ci et qui a été disséqué par Frédéric Lorenzini. C'était en tout début de semaine, l'idée de fonds. Vous retrouverez le podcast ou le replay sur le site, comme l'ensemble d'ailleurs de nos podcasts et replays qui vous attendent. C'était assez intéressant d'écouter Frédéric à ce sujet. Merci messieurs. Bon retour. Le marché parisien qui progresse de 0,3%, 6351 points.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Allez, on file sur le marché, retrouver depuis la cellule info d'experts de Bourse Direct, Romain Daubry, qui nous fait l'amitié de suivre ce matin ce marché parisien, qui était parti bon pied, bon oeil, et qui finalement a quasiment inversé la tendance. On se retrouve quasiment au point d'ouverture.
Bonjour Cédric. Ah oui, une situation d'attente évidemment, un petit excès haussier du matin, et puis on vient se caler, se rééquilibrer autour de niveaux médians. Cette logique indicielle de trading range qui se met en place probablement et qui devrait durer quelques temps, sauf catalyseur externe fort, mais on arrive à ces niveaux d'équilibre. On a d'une part préservé et rebondi sur des niveaux d'alerte avec des points d'intérêt, avec un intérêt qui reste quand même mitigé, mais des niveaux d'entrée qui semblent confirmés, puisqu'on les a retestés après s'être appuyé dessus en juin-juillet. Et puis un sous-investissement, un pessimisme aussi qui laisse à penser qu'il y a encore un peu de place, et même si les volumes et l'intérêt restent en dessous de ce qui pourrait être, dans un contexte de manque de visibilité qui lui en revanche empêche d'avoir des relais aussi importants. Alors sur l'indice parisien, c'est le trading range 6135-6134 sur le futur. La médiane, c'est 6315. On revient se caler pas loin de là. Et puis les extensions haussières, c'est 6485, 6545, pourquoi pas. Si on veut un repère plus large, il est bien visible sur l'indice S&P 500, c'est 3901 en bas, 4202 en haut et 4058 la médiane. On l'a un peu franchi hier, ça fait un trading range de l'ordre de 8% dans lequel on est probablement installé pour quelques temps. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent hors indice, peut-être un petit rattrapage en Europe notamment, avec un excès de sous-valorisation, un excès de décollecte, et puis une petite capitulation qu'on a pressentie la semaine dernière sur pas mal de titres. Il y a des titres comme Charger, Ubisoft, Atos, Forestia même en début de semaine qui ont pas mal baissé avec des mouvements de baisse d'une dizaine à une quinzaine de pourcents et qui traduisaient peut-être une forme de petite capitulation à court terme. Alors on n'attend pas de cette capitulation des mouvements aussi forts comme une purge de marché, mais force est de constater que pendant ce temps-là, les indices ont bien, stagné, ils ont même résisté. Et puis ces titres, pour une partie en tout cas, ont déjà rebondi et été soit recherchés, soit débordés même pour Forestia. Leur niveau de capitulation, en tout cas leur point bas et les moments à partir desquels le mouvement baissier s'est mis en place. Et puis il y a aussi de l'intérêt sur pas mal de valeurs, et c'est ce qu'on fait. On est rentré sur pas mal de titres avec des petites positions qu'on renforce au fur et à mesure qu'elles confirment. Et c'est un peu le cas pour plusieurs valeurs. Alors parmi elles, on a noté De Richbourg, Eurofins Scientifique, qui confirme aujourd'hui et qui en plus a reçu une recommandation positive. Il y a des valeurs comme Trigano, Forestier, on vient de le dire, Worldline aussi, qui confirme et qui donc donne des signaux d'intérêt, même si les volumes ne sont pas énormes, même si les structures de retournement haussière ne sont pas gigantesques, mais on arbitre et on utilise ces opportunités pour rentrer dans le marché, pour se réinvestir. Il y a des valeurs aussi qui donnent des signaux intéressants comme Amundi ou Veralia, et sur lesquelles on s'est repositionné. Et puis enfin, il y a un élément intéressant du côté de la logique sectorielle. Il n'y en avait quasiment pas. Et depuis quelques heures, depuis la fin de la semaine dernière, on voit un petit peu d'intérêt du côté des secteurs financiers, banques, assurances, et toujours un secteur qui surperforme les énergies traditionnelles. Donc des choses à faire, des arbitrages à faire, mais hors indice probablement pendant quelques temps, et de profiter de ces points d'entrée pour du moyen et long terme. Et on restera dans ce marché agile, on prendra du bénéfice relativement rapidement. On reste bien entendu méfiant dans un contexte où la visibilité manque et on imagine que des trous d'air auront lieu. Pour l'instant, c'est une semaine technique qui s'entame devant nous, et puis des rendez-vous importants.
Merci beaucoup Romain. Romain Daubry et la cellule info d'experts de Bourse Direct qui nous accompagnait ce matin sur ce marché, le CAC 40 qui s'adjuge 0,3%, 6353 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, les coulisses du patrimoine.
Les coulisses du patrimoine qui vous entraînent ce matin dans le monde des prêts familiaux de sommes d'argent avec Sandrine Kilici pour l'ingénierie patrimoniale de Pictet Wealth Management. Sandrine, bonjour.
Bonjour Cédric.
Un conseil, attention au formalisme, c'est ça ?
Exactement, exactement. En fait, là en ce moment, on parle beaucoup de la hausse des taux au niveau des prêts, de la difficulté qu'il peut y avoir pour...
à obtenir son prêt, le taux d'usure.
Notamment le prêt immobilier, etc. Et c'est vrai qu'il peut être tentant, enfin on peut imaginer tout à fait qu'un enfant, par exemple, puisse aller trouver ses parents, ses grands-parents pour obtenir un prêt de leur part, puisqu'il n'est pas obligé non plus de prévoir un intérêt dans un cadre familial. Il n'y a pas d'obligation, en tout cas. Donc, ça... Voilà.
Pourtant,
en ce moment, on est dans un contexte où on pourrait voir ce type de demande.
Dans le cadre familial, pourtant, on s'attend plutôt généralement à ce que l'argent soit donné, non ?
Alors, c'est tout à fait vrai. Effectivement, dans un cadre familial, généralement, les parents auront plutôt tendance à vouloir donner que prêter. Mais il y a des cas dans lesquels, en réalité, le prêt peut être une bonne alternative.
C'est-à-dire, dans quelles circonstances un parent, que ce soit parent ou grand-parent, enfin bref, un ascendant préfère prêter plutôt que de donner ?
Alors en fait, il y a plusieurs situations. Il y a celle tout d'abord où on va voir par exemple un enfant qui a un besoin particulier et l'autre non. Donc dans ce cadre-là, plutôt que de lui faire une donation, on va préférer lui prêter une somme d'argent de manière à ne pas déséquilibrer les rapports entre les deux, notamment dans le cas de la succession à venir. Donc ça, c'est déjà un premier point. Après, on a des parents qui souhaitent responsabiliser leurs enfants. Et puis on peut avoir d'autres cas dans le cas de lesquels les parents ont déjà pas mal donné et n'envisage pas de faire des donations supplémentaires, surtout quand même qu'une donation supplémentaire, ça va avoir un coût quand même, on va avoir les droits de donation.
Bon, donc on peut partir sur l'idée d'un prêt dans le cadre familial, mais il y a, et c'est pour ça que vous nous disiez attention au formalisme, le risque que l'administration fiscale dise « Eh oh !» Pas me prendre pour un lapin de 3 semaines, on voit bien que c'est une donation déguisée, non ?
Alors, effectivement, il peut y avoir des cas dans lesquels l'administration va chercher à démontrer qu'en réalité, il n'y a pas un prêt, mais une véritable donation. Mais on a vu des cas dans lesquels, également, l'administration cherche à requalifier le versement de la somme d'argent en revenu. Alors, dans l'hypothèse d'une donation, tout d'abord, alors, il faut qu'elle démontre l'existence d'une intention libérale. Ça, c'est déjà le premier point. Donc, cette attention libérale, elle va déjà la repérer si je n'ai pas de remboursement, l'absence de remboursement. Mais comment elle va faire ? En fait, elle va s'appuyer sur des faits. Elle va s'appuyer sur des faits. Elle va employer la fameuse méthode dite du faisceau d'indices. Donc, en fait, elle va aller chercher des indices de droite et de gauche qui, pris dans leur ensemble, montrent qu'il n'y a effectivement aucune intention libérale. Alors, ça va être le cas, par exemple, si l'enfant n'est pas en capacité de rembourser. Alors, un indice qui n'est pas suffisant, mais comme on le disait tout à l'heure, là on est dans un cadre familial, mais c'est vrai que l'existence d'un lien de parenté ou d'un lien d'affection, c'est déjà un indice. C'est pas suffisant, mais c'est un indice. Donc, comme je vous disais, si l'enfant n'est pas en capacité de rembourser, voilà, il y a un sujet. Mais ça va être autre indice, ça va être la situation du prêteur. Si celui-ci est très âgé, par exemple des grands-parents, et que, vu ce qui lui reste à vivre...
Si on part sur un prêt de 20 ans pour quelqu'un qui a 96 ans...
C'est ça. Là, effectivement, on ne pourra pas objecter qu'il n'y a pas eu d'intention libérale.
Bon. Dans quel cas, justement ? Parce que vous nous avez dit, ils peuvent considérer ça comme un revenu aussi.
Exactement. Il y a des hypothèses dans lesquelles l'administration va tenter de démontrer qu'en fait, le versement de la somme d'argent est un revenu taxable chez le bénéficiaire de la somme. Alors, on va avoir ce type de tentation lorsque l'administration va considérer qu'il y a une relation d'affaires entre les deux personnes.
Oh, ouais, une relation d'affaires, c'est-à-dire ?
Alors, en fait, la relation d'affaires, elle va se caractériser si entre les deux personnes, j'ai une relation économique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une contrepartie lucrative, en fait, au versement de ces sommes d'argent. Alors quand on dit ça, on dit c'est quand même un peu curieux, surtout dans un cadre familial. On va prendre deux exemples. Le premier exemple, ce sont des exemples qui ont été jugés. Donc, voilà, premier exemple, c'était l'hypothèse en fait d'un fils qui avait sa société et qui employait son père. Et puis, à côté de ça, le fils a prêté de l'argent à son père. Et bien, dans ce cadre-là, le juge a considéré que ce prêt, c'était un complément de rémunération. Tout ça parce qu'il y avait une relation d'affaires entre D'accord. le père et le fils. Et un autre exemple, on avait deux frères associés dans une même société. Et un des frères qui a prêté une somme d'argent à l'autre, et bien là, il a été considéré que c'était un revenu taxable chez le bénéficiaire de la somme d'argent. Donc il faut faire attention.
Bon, dans tous les cas, est-ce qu'il y a une façon de pratiquer pour que ce soit irréprochable, que ce prêt familial puisse vivre sa vie de prêt ?
Alors, bon, déjà, la première des choses, c'est qu'il faut s'assurer que l'emprunteur, que l'enfant qui emprunte ou le petit enfant, soit en capacité de rembourser. Déjà, D'accord. ça commence comme ça. Après, il faut s'aménager la preuve. C'est toujours la même chose. Et quelle meilleure preuve que l'écrit ? Il n'y en a pas d'autre. Donc, déjà, souscrire un contrat de prêt, conclure un contrat de prêt entre les parties. Ce contrat de prêt peut être passé devant notaire. Il peut être passé, comme on dit, sous seing privé, c'est-à-dire les deux personnes vont signer le contrat de prêt. Mais par contre, dans ce cadre-là, il faudra aller l'enregistrer à la recette des impôts pour lui donner ce que l'on appelle une date certaine et que ce soit opposable à l'administration fiscale. Ce contrat de prêt, déjà, ce serait pas mal qu'il prévoit l'objet du prêt. Donc souvent, ça peut être l'exemple...
L'achat d'un appartement.
Voilà, exactement, un apport complémentaire pour l'acquisition effectivement d'un appartement. Il faut que la durée du prêt soit précisée, que les conditions du prêt soient précisées, qu'on ait les échéanciers de remboursement, mais également qu'on ait la périodicité des intérêts s'il y a un intérêt qui est prévu.
Parce que ce n'est pas obligatoire.
Non, ce n'est pas du tout obligatoire.
On peut faire un prêt à taux zéro.
Exactement. Tout à fait. C'est vrai que c'est ce qu'on rencontre le plus souvent dans un cadre familial, parce qu'il ne faut pas oublier que les intérêts, après, sont taxés.
C'est ça.
C'est celui qui prête.
Parce que s'il y a des intérêts, il faut que le prêteur déclare ses revenus, là, pour le coup.
Exactement. Ouais. De la même manière, on va s'aménager la preuve en gardant, du côté de celui qui emprunte, ses relevés bancaires. Donc là, qui vont pouvoir démontrer qu'il a remboursé. Et autre preuve qui est importante, c'est lorsque mon prêt est d'un montant d'au moins 5 000 euros, on a un formulaire à souscrire, qui est le formulaire de contrat de prêt, c'est le formulaire 2062. Donc on a également cet élément supplémentaire qui permet de démontrer qu'il s'agit bien d'un prêt.
Et juste, petite virgule, si c'est pour temporiser, par exemple, quelqu'un qui il attendait une rentrée d'argent parce qu'il vendait un bien qui n'est pas vendu, ou bref, et il a besoin, et de l'autre côté, il achetait un autre bien, enfin voilà. Si on a besoin d'une somme, 10, 15...
Ouais, une
part. Espèce de prêt-relais.
Exactement.
Là, pour le coup, il faut aussi aller le déclarer, le ceci, cela, oui. Même si c'est un temps bref et
si,
autre.
Si c'est un temps bref, ne serait-ce que la déclaration sur le formulaire 2062 devrait suffire. D'accord. Il n'y a peut-être pas obligation de contrat, de prévoir des échéanciers, puisqu'on sait que c'est le coût d'un mois, deux mois, ça, ouais. Mais au moins remplir le formulaire.
Attention donc au formalisme. Sandrine Kilissi, merci beaucoup pour l'ingénierie patrimoniale de Pictet Wealth Management. Le marché parisien progresse de 0,27%, se montre très attentiste. On est à 6350 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
Et pour répondre à toutes vos questions, on retrouve Mireille Wimbert. Prête, Mireille ?
Je suis prête, Cédric.
Yves, il va ouvrir un plan d'épargne retraite. Ce sera son premier. Et il se demande quel montant de versement total il peut effectuer pour bénéficier de l'impôt, de l'économie d'impôt pardon, la plus forte.
Alors, le plan d'épargne retraite, c'est un avantage fiscal à l'entrée. Ça veut dire que, dans une certaine limite qu'on va voir, l'intégralité des versements que je fais sur ce plan sont déductibles de mon revenu imposable, de mes impôts. Donc, évidemment, quelqu'un qui est dans une tranche à 45%, c'est beaucoup plus intéressant que quelqu'un qui est à 11% ou qui n'est pas imposable. Pour quelqu'un qui n'est pas imposable, il n'y a aucun avantage fiscal. Quelqu'un qui est à 45%, eh bien, l'avantage, ça sera 45% de ce qu'il verse dans une certaine limite. Cette limite, elle est quoi ? C'est 10% des revenus, chaque année, à peu près. Et c'est limité quand même. Il y a une limite maximale qui est cette année de 32 909 euros. Donc on peut, si on gagne, si ça, ça représente 10% de ce qu'on gagne, on peut verser jusqu'à ce montant. 32 909 euros, ça fait une économie d'impôt de 14 809 euros pour quelqu'un qui est dans la tranche à 45%. Donc c'est un outil de défiscalisation massive, ce PER. Bon. Monsieur l'ouvre pour la première fois. Alors ce qui est génial avec le PER, c'est qu'on peut comme ça aller chercher des montants de versement un peu partout. On a ce fameux plafond que j'ai pour l'année, j'ai dit, le maximum qu'on peut verser, 32 909 euros. Ça, c'est pour mon année. Mais je peux aussi récupérer les trois montants que j'aurais, maximaux, que j'aurais dû verser les années avant, les trois années d'avant.
On a le droit aux trois années précédentes,
si j'en avais pas avant. Donc je cumule mon plafond de cette année, mes 32 909, mon plafond de l'année N-1, N-2, N-3. Donc j'ai quatre plafonds. Au total, ces quatre plafonds, ça fait environ 130 000 euros. C'est énorme. Si vous défalquez de votre revenu imposable 130 000 euros et que vous êtes dans la tranche à 45 000, c'est cool. Bien. Après, monsieur, il n'a peut-être pas toute cette somme-là. C'est quand même, il faut quand même être extrêmement fortuné pour pouvoir placer 130 000 euros d'un coup d'un seul sur son PER une année. Sachant que ça, c'est pour une personne. Mais je peux aussi, je ne vous l'ai pas dit, prendre les plafonds de mon époux ou de mon épouse. Donc ça veut dire que c'est 130 000 fois 2. Plus le plafond des enfants. Les enfants ne travaillent pas. Eux, c'est limité à 16 250 par an. Bref, on peut cumuler comme ça des plafonds dans tous les sens. Et alors lui, qu'est-ce qu'il a intérêt à faire? Bah déjà, quand on verse quelque chose, c'est pris sur le plafond de l'année en cours. Donc c'est son plafond de 32 909 euros qui va être attaqué s'il verse dessus. C'est là-dedans qu'on va piocher d'abord. S'il consomme l'intégralité de ce plafond, dans quelle autre année on va aller chercher? On va aller chercher dans l'année la plus ancienne.
Celle qu'on va perdre.
Celle qu'on va perdre. Parce que si on verse pas, si on récupère pas le montant des sommes qu'on a le droit de verser au titre de plafond de N-3, eh ben, l'année prochaine, ce plafond, il tombe. Je l'ai plus. Donc, autant le faire comme ça. Donc, ma recommandation, c'est, déjà, vous versez, puis vous voyez si vous atteignez votre plafond, de l'année ou pas. Ça, c'est indiqué dans votre bulletin d'impôt, dans votre avis d'imposition. Il y a les plafonds.
Mais parce qu'en plus, les impôts travaillent pour vous.
Ouais. C'est ça. Donc, vous regardez. Si vous dépassez ce truc-là, ou si vous voulez optimiser, veillez à consommer aussi le plafond de votre année N-3 complètement, parce que celui-là, l'année prochaine, il est perdu.
Voilà donc, Yves, quelques explications liées à ces plafonds d'épargne retraite. Agnès, en tant que l'assurance vie et le PEA sont avantageux fiscalement, mais ils ne procurent pourtant aucune réduction d'impôt.
C'est vrai, par rapport à ce qu'on vient de dire sur le PER, il a donc un avantage quand je verse. Là, assurance vie et PEA, il n'y a aucun avantage quand vous versez de l'argent. Non. Mais il y a un avantage ensuite pendant la vie du contrat, c'est-à-dire que les revenus que ça va être généré vont avoir une fiscalité assez douce. Surtout le PEA, puisqu'on le sait, au bout de 5 ans, les plus-values sont exonérées, les gains sont exonérés d'impôt sur le revenu. Vous payez les prélèvements sociaux, mais pas l'impôt sur le revenu.
C'est ce qu'on appelle les enveloppes de capitalisation.
Ouais, ça, c'est pas mal. Donc, ça vous permet de minimiser l'impôt que vous aurez à payer plus tard. Et puis surtout, il y en a un qu'on oublie toujours, c'est le PE, le plan d'épargne entreprise. Alors celui-là, il est pas mal non plus. Le PEA, c'est vous l'ouvrez, 5 ans plus tard, vous êtes exonéré quelque soit, voilà. Le PE, c'est par versement. Donc chaque versement, les gains que vous réalisez sur un versement qui est fait dans votre PE vont être exonérés d'impôt sur le revenu 5 ans après. Donc là, ça décale chaque fois en fonction de la date de versement effectif. Mais c'est un outil qui est extrêmement efficace, le PE, et on l'oublie toujours parce qu'il est fait dans le cadre de l'entreprise. Donc on se dit, voilà. Et puis alors après, vous avez l'assurance vie qui, elle aussi, peut être exonérée, enfin sur les gains. Dans quelle situation? Il faut quand même là qu'elle ait 8 ans et puis que les gains que vous récupérez quand vous faites un retrait soient inférieurs à un certain seuil qui est 4600 euros. Mais pour avoir 4600 euros d'intérêt retiré, il faut déjà retirer une grosse somme. Hein. 4600 euros pour une personne seule et le double, donc 9002 pour un couple. Et surtout, l'assurance vie, après, c'est chaque année. Donc, une fois que vous avez 8 ans, chaque année, vous pouvez sortir des sommes en exonération d'impôt sur le revenu avec ces plafonds-là qui se reconstituent chaque année. Vous avez 4006 si vous êtes célibataire de gains exonérés chaque année. Donc vous
4006 de plus-value.
Oui.
Donc comme on retire aussi du capital, si on retire,
ouais. Oui, et puis alors après
comme dans un rachat, on fait du capital
et c'est avantageux, exactement.
Guillaume se demande où trouver les performances passées des FCPI. Attention, hein, pas des SCPI. On n'est pas dans le même...
Alors là, c'est un boulot à plein temps, j'allais dire. Hein.
Ah.
Oui, je pense que c'est un boulot à plein temps.
Donc c'est les fonds communs de placement dans l'innovation.
Alors ces choses-là, ça fait partie de l'univers du private equity. Ce sont des fonds dans l'innovation. On investit dans des fonds qui eux-mêmes investissent dans des PME innovantes. Ces PME innovantes doivent avoir le label de la BPI Innovation. Pourquoi est-ce qu'il y a... Et là, il y a un avantage fiscal à l'entrée. C'est 25%, entre 22 et 25% de réduction d'impôts. Donc ça, c'est intéressant en période de défiscalisation comme on est en ce moment. Mais effectivement, il y a un risque de perte qui est important. Alors, quand les gens nous disent « Je voudrais bien un FCPI, je fais comment ?» On leur dit systématiquement « Allez voir les performances passées de la société de gestion ». Eh ben oui, mais on les trouve où? Et c'est le problème. Vous avez des sociétés de gestion qui mettent sur leur site les performances. Je pense à Isatis Capital, notamment. Je viens de faire un papier sur les FCPI. Du coup, j'étais concernée, puisque j'ai cherché moi-même les performances. Sur le site d'Isatis Capital, il y a les performances. Sur le site d'une grande société de gestion, pourtant Euroaseo, elles n'y sont pas encore, mais ça ne saurait tarder. Ils vont les mettre là avant la fin de l'année. Donc ça, c'est bien. Donc il faut aller voir les performances sur le site. Si elles n'y sont pas, envoyez un mail pour demander les perf, et puis si on vous les envoie pas, vraiment vous n'y allez pas, parce que quelqu'un qui a pas envie de donner ses performances, ce qu'il faut savoir, c'est que ces FCPI, on dit toujours regardez la société de gestion, c'est vrai, mais ça n'existe pas une société de gestion qui, sur toutes ces années de FCPI, elles en font un chaque année en général, elles en créent un nouveau chaque année. Ça n'existe pas une société qui est positive sur l'ensemble. Ça n'existe pas. Donc, le mieux, c'est quand même de panacher. Et est-ce que vous avez suffisamment d'argent pour en mettre dans 2-3 FCPI? C'est mieux. Choisissez des stratégies différentes. Dans ce truc FCPI, société d'innovation, il y a quand même deux sous-catégories importantes. Il y a des sociétés, il y a des fonds qui font du capital risque. Ça veut dire que c'est des boîtes de la tech qui sont encore pas positives, qui vont l'être, etc. Donc, encore un peu fragiles. Ça, c'est le cas, par exemple, de Razéo, mais
ils le disent,
et c'est leur métier, c'est leur boulot. Eux font ça très bien. Dans des FCPI Razéo, vous aviez, par exemple, du Criteo. Donc, vous voyez, c'est vraiment des dénicheurs de boîtes qui sont capables de faire des multiples fantastiques. Énorme. Donc, ils l'assument parfaitement. Et puis, vous avez des FCPI qui font plutôt du capital développement. Donc, ça, c'est le cas, par exemple, d'Isatis Capital. Là, ce sont plutôt des sociétés un peu plus matures qui ont déjà du chiffre. Donc, à l'intérieur, panaché entre différentes stratégies, si vous avez envie,
Voilà. Et surtout, il faut savoir que c'est du temps long.
Ah, c'est du temps long, évidemment. On ne peut pas récupérer
son argent. Et que parfois, on nous dit ça va être débloqué.
Oui. Alors, normalement, c'est débloqué 9 ans maximum ou 10 ans. Mais parfois, ça va plus longtemps. Et c'est pas toujours critiquable. Imaginez, j'ai un fonds, donc il y a... alors, ça dépend. Dans les fonds de capital risque, il y a une quarantaine de lignes, parce que c'est quand même plus risqué. Et puis, c'est des plus petites boîtes. Et dans les fonds de capital développement, il y a une quinzaine de lignes. Donc, il y en a moins. Mais enfin, il y a on va dire 15 ans, 20 entreprises. D'accord? S'il en reste une, le fonds, il vous rend votre argent quand? Quand lui-même qu'il a réussi à vendre ses participations. S'il y en a une qui reste, elle n'est pas forcément pourrie, cette boîte. C'est juste que les conditions de marché ne sont peut-être pas là. Le secteur d'activité intéresse moins, mais la boîte est peut-être encore... Elle va peut-être être vendue au bon prix. Donc, il faut juste attendre un peu. Alors, c'est vrai que c'est embêtant. L'AMF, je crois, est en train de réfléchir à tout ça, voir comment on fait avec ces boîtes qui restent en portefeuille et qui
traîner. Non, mais c'est un truc à avoir en tête. Quand
On vous dit que c'est 9 ans. Parfois, c'est plus.
Parfois, c'est un peu plus. Ouais. Faut juste l'avoir en tête.
C'est vrai.
Donc fonds communs de placement dans l'innovation FCPI, à ne pas confondre ni avec les FPI ni avec les SCPI,
qui sont de l'immobilier. Ouais.
Ni les OPCI qui eux aussi sont de l'immobilier. Jean-Charles a d'importants revenus fonciers et il a un conseiller qui lui propose de vendre tous ses biens locatifs à une SCI qu'il créerait avec ses enfants. Et il se demande si c'est cohérent.
Alors, c'est ce qu'on appelle, je vais vous parler avec mon anglais approximatif, ça s'appelle owner buyout. Oh, beau. Ça veut dire, les revenus fonciers, c'est lourd comme revenu. C'est un truc qu'on ne peut pas faire grand-chose. Quand on arrête des revenus fonciers, on est obligé de payer ça à votre tranche d'impôt sur le revenu. Si vous êtes à 45%, c'est 45% qui partent en impôt. Si vous avez des très gros revenus, vous avez en plus la taxe de 3 ou 4% sur les hauts revenus, 3 ou 4% de plus, puis vous payez aussi des prélèvements sociaux de 17,2. Donc on est très vite à 62-64% de taxation sur ce que vous récupérez de vos loyers. Donc c'est énorme. Et puis par ailleurs, vous payez l'IFI éventuellement. Si vous avez un patrimoine immobilier, parce que ça rentre dans l'IFI, qui est important, donc vous avez l'impôt sur le revenu plein pot, et en plus ça peut vous faire basculer dans l'IFI. Donc parfois on a envie de se dire bon, à quoi bon. Mais parfois on est attaché à ses biens. Et alors comment faire? Il y a une des solutions, c'est ce que je vous disais, c'est ce hobo. C'est un peu compliqué. Là, faut quand même voir un notaire. Il faut voir si vraiment dans votre situation c'est quelque chose de profitable.
Travailler avec un professionnel.
Ouais, ça ne fonctionne pas dans tous les cas. Schématiquement, j'ai tout mon immobilier locatif, il m'appartient. Les crédits que j'avais pour acheter ça sont épuisés. Donc c'est à ce moment-là, quand les crédits sont épuisés, tant qu'il y a du crédit, je déduis. Mais quand ils sont épuisés, je paye ma fiscalité plein pot, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, 62-64%. Bien. J'ai pas envie de faire ça, bah alors là, qu'est-ce que je fais? Je recrée du crédit, en fait, je vends tous ces biens à une SCI que je crée avec mes enfants. Donc je ne vends pas à moi-même, puisque je vends à une société où j'ai des enfants avec moi.
Société qui va donc emprunter.
Absolument. Donc ce n'est pas quelque chose c'est pas un abus de droit. Et ça permet finalement de quoi? Ben, la SCI, a priori, elle n'a pas d'argent, puisque je viens de la créer. Donc elle va emprunter, donc ça va recréer du déficit. Donc voilà, pour les revenus fonciers, c'est bien. Pour l'IFI, c'est bien aussi. Et ça permet de transmettre aux enfants. Mais enfin, avant de s'engager dans ce type de montage, vraiment, il faut voir un professionnel. Moi, je ne peux pas vous dire comme ça si dans votre situation, c'est bien ou pas. Ouais. Ça existe, dans certains cas c'est très bien, mais attention, pareil, si vous vendez tout votre immobilier locatif à une SCI, vous allez payer de l'impôt sur la plus-value au moment de la vente. Si vous avez ces biens immobiliers depuis très peu de temps, la plus-value elle va être mouse costaud, donc c'est peut-être pas la peine non plus, voyez. Donc il y a plein de paramètres à vérifier avant d'opter pour ce type de montage.
Allez, vous reste 40 secondes pour répondre à Thérèse. D'habitude, l'or est une valeur refuge actuellement, alors que les actions comme les obligations sont dans le rouge. L'or n'est pas très prisé. Pourquoi?
Bah, l'or, ça rapporte quoi?
Bah, rien.
Rien. Et l'inflation, elle a combien? Voilà, vous avez la réponse. Bon. Dans le même temps, vous savez que les taux ont augmenté pas mal aux États-Unis depuis avant l'Europe, puisque la Fed américaine a augmenté les taux. Donc, si vous voulez, les emprunts d'État américains en ce moment, vous les avez à 3, 2,53, ça dépend de la duration. C'est intéressant, un truc sans risque, un prêt de l'État américain à ce niveau-là, alors que l'or rapporte zéro. Donc, c'est quand même, voilà, la réponse.
Merci Mireille. Mireille Wimbert qui nous accompagne très régulièrement dans un instant 60 minutes business avec Sandra Gandouin. Bonjour Sandra.
Bonjour Cédric Decoeur.
Quel programme nous avez-vous concocté?
On va parler du budget 2023, le ministère des Finances qui va dévoiler ce soir à 20h ses prévisions de croissance, de déficit et de dette pour l'année prochaine. On va en parler avec Thomas Asportas et Jean-Marc Daniel dans le journal. Et puis les représentants des banques qui sont reçus actuellement par Bruno Le Maire dans le viseur de Bercy, les frais d'incident bancaire dont la France est championne, hein, sachez-le. On en parlera, des efforts à faire, notamment avec Guillaume Almeyra. Et puis, notre invité va nous parler de chaleur fatale. Vous savez ce que c'est, la chaleur fatale?
La chaleur fatale.
Oui, et bien c'est l'énergie, la chaleur perdue par les industries. Et bien, notre invité récolte cette chaleur pour la retransformer en électricité. C'est le bon moment. Donc, nous recevrons Arthur Leroux, le président d'Enogia, pour nous parler de tout cela. Et puis, à 12h30, on répondra aux questions des auditeurs téléspectateurs avec Lorraine Goumeau.
Bon, ben, on sait maintenant ce que c'est que la chaleur fatale. On va se coucher donc moins bête qu'on s'est levé ce matin. Merci Sandra. Le CAC lui progresse de 0,36%. On est à 6356 points. Et nous on se donne rendez-vous demain matin à 10h. Très bonne journée.
C'était votre programme avec Corum l'épargne, les spécialistes de l'épargne qui vous accompagnent dans vos projets d'avenir. Plus d'informations sur corum.fr.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.